Donc, dans une chronologie que je me refuserai à commenter, donc, c'est avec plaisir et néanmoins un certain regret que je donne aussi tardivement la parole à la dernière de nos intervenantes, Madame Irène Rosier-Catache, qui est, elle aussi, une modiste, si je puis dire. En tout cas, je pense que sa communication fera écho directement ou indirectement celle que nous venons d'écouter. Et je la remercie vivement pour cette présentation intitulée « Una et eadem apud omnes ». Et cette « Una et eadem apud omnes », c'est la grammaire, mais spéculative. Et les sciences du discours. Merci beaucoup.
Merci. Je vois que il y a une petite désertion de l'assistance, mais les meilleurs sont là. Je plaisante, il est un peu tard, effectivement. Et je suis désolée aussi pour ce titre, parce qu'en fait, je vais parler de deux choses différentes, et ce titre correspond à la deuxième de ces deux choses. Mais vous allez voir, ces deux choses ont un rapport. En fait, ce que je voudrais questionner, ce sont deux périodes et deux périodes, le début du XIIe siècle et le XIIIe siècle. Et les deux points que je voulais aborder, vous allez voir, ont un certain rapport, puisqu'ils visent à questionner la place de l'analyse du langage dans la logique en général et dans la logique médiévale en particulier. On a souvent parlé de la logique ici, sans forcément, moi j'ai un peu posé la question à plusieurs reprises, mais la place de l'analyse du langage est tellement énorme dans la logique médiévale que ça vaut c'est une façon de l'interroger, mais au-delà peut-être d'avoir une interrogation plus large sur l'analyse du langage. On l'a vu avec Locke hier, qui ne rentrait pas dans cette logique alors qu'il avait fait une analyse du langage. Et comme on sait, aujourd'hui, l'analyse du langage, elle est séparée entre des disciplines qui ne se parlent pas, la linguistique, la sémiotique, la littérature, la philosophie du langage, etc. Donc c'est une question un peu générale. Alors, je ne vais pas du tout aborder des questions d'histoire extérieure ou sociale ou sociologique, les choses dont a parlé John. J'en ai parlé ailleurs sur la place. Il faudrait aborder, évidemment, la place du langage en général dans la philosophie, dans la théologie médiévale, les paramètres comme la question du bilinguisme qui est importante. Je laisse de côté, c'est des choses dont j'ai un peu traité ailleurs, dont d'autres aussi ont traité. Évidemment, il faudrait l'inclure. Là, je vais me concentrer sur des choses un peu théoriques. La deuxième chose aussi, mais ça je crois que tout le monde le sait ici, c'est vraiment distinguer de la grammaire. C'est-à-dire, on le voit en particulier chez Jean de Salisbury, la grammaire dont on va s'occuper ici, c'est la grammaire théorique, la grammaire qui n'est pas la grammaire qui sert à apprendre le latin, qui est liée à la littérature, etc. Il y a eu des études américaines où il y avait une équivocité sur ce qu'on appelait la grammaire, je crois que c'est absolument évident, banal, il faut le rappeler, on ne va pas parler de l'enseignement du latin et des études littéraires. C'est deux disciplines qui n'ont rien à voir. Dans le Métalogicon, d'ailleurs, on a bien l'opposition entre Bernard de Chartres, qui apprend la littérature et qui est grammaticus à ce titre, et puis des auteurs comme Pierre Elie et autres qui le sont à un autre titre. Donc, les deux points que je voudrais aborder, un peu sous forme de questions, je vais essayer même d'abréger certaines choses si je peux. La première chose, c'est ce que je pourrais appeler, ou ce que je vous proposerais en tout cas de discuter, ce qu'on pourrait appeler le linguistic turn qui marque la logique dès le début du XIIe siècle, le tournant du XIe, XIIe siècle, et qui, je crois, marquera durablement non seulement la logique médiévale, mais aussi l'importance de la logique en dehors de la logique, si je puis dire, des sciences du trivium, c'est-à-dire en particulier en théologie. Et le deuxième, ce qui correspond à mon titre, la revendication de la grammaire à être à un moment donné une una est eadem et d'être une science du langage universelle, identique chez tous, ce qui ne va pas du tout de soi, puisqu'on connaît et on le verra les arguments, la diversité et la variabilité des langues peut sembler s'opposer à l'idée d'une grammaire una est eadem, et c'est exactement ce que feront un certain nombre d'auteurs au XIVe siècle en critiquant justement cette revendication de la grammaire spéculative en disant non, la grammaire, elle est cantonnée aux langues particulières, c'est la logique qui, s'il y a quelque chose d'universel à dire sur le langage, qui s'occupe de l'universalité et ce n'est pas la grammaire. Donc là, il y a vraiment une bagarre sur cette question. Alors, le linguistic turn, donc je vais un peu aller rapidement, puisqu'en fait, John avait fait un peu le background du haut Moyen-Âge que je m'apprêtais à faire, je vais aller rapidement. On écrivait avec Alain du Libéra quand on était jeune, il y a bien longtemps, dans une grosse synthèse qu'on avait fait sur la pensée linguistique médiévale. Nous écrivions que le début du XIIe siècle est marqué par une triple rencontre, celle d'Aristote, de Priscien et de Boès, qui détermine un espace de jeu où la sémiologie se construit essentiellement comme une sémiologie du nom, unité minimale de signification, et du verbe, foncteur principal. Donc cette triade, c'est Aristote, évidemment, complétée par Porphyre, commentée par Boès, qui fournit le cadre général de la réflexion sur la signification avec la structure tripartite vox, intellectus, res. Le deuxième, Priscien, qui fournit une caractérisation du nom et du verbe, on va avoir l'occasion d'y revenir, du nom, du verbe et de l'énoncé complet, et Boès, le Boès des opuscules théologiques, dont je ne vais pas m'occuper ici, mais qui est très important parce qu'il ouvre la voie, en particulier à une approche contextuelle de la signification et de la référence. Donc c'est le premier temps de la rencontre dont je vais parler ici, celle qui se fait entre Aristote et Priscien, d'abord au XIe siècle, puis dans les écoles cathédrales de Paris au tout début du XIIe siècle. Le XIe siècle marque un changement dont je retiendrai brièvement trois points, et John en a déjà donné un certain aperçu dans son exposé tout à l'heure. Le premier, et lui-même d'ailleurs l'a écrit dans l'article qu'il citait de 2008 en particulier. Le premier, c'est ce que Lorenzo Migno Paluello avait décrit comme la deuxième phase de la découverte d'Aristote et de Boès. Et John Marenbon parle plutôt du début d'une phase boétienne, le Boès des commentaires. C'est-à-dire qu'on commence à lire les commentaires au début du XIe siècle. On ne les lit pas avant, même si on a les mêmes textbooks. Donc je renvoie aux études de John, il nous en a reparlé. Donc on commence à lire les monographies et les commentaires de Boès au XIe siècle. C'est très important et il le souligne. Le deuxième, c'est l'utilisation de la logique par les théologiens. Là aussi, il en a déjà parlé. Plusieurs travaux y ont été consacrés. C'est vrai pour la logique, mais c'est vrai évidemment pour la grammaire. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les deux ensemble. On peut prendre l'exemple que j'avais étudié l'analyse de la formule eucharistique par Béranger, le débat avec Béranger et Lanfranc. Et là, on voit qu'il y a des interactions avec, évidemment, la logique et la grammaire. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que dans les opinions, on a des listes anonymes d'opinions sur le verbe substantif qui circulent, et on a les opinions de Lanfranc et d'un certain nombre de théologiens à côté des opinions des logiciens. Donc là, on a vraiment des marques d'interaction qui sont très claires. On a aussi évidemment l'analyse des paronymes, celle que détestait Prandtl, l'analyse des paronymes d'Anselme, où on a aussi du Priscien et du Boès. Mais ce que je voudrais, et on a Odon de Cambrai, Christophe Erismann l'avait étudié, le troisième point à souligner, c'est dans la nouveauté, c'est l'apparition d'une logique invoquée. Alors évidemment, il faudrait traiter du cas de Rosselin, le premier à soutenir que les universaux étaient des voces, et je rappellerai ici simplement à la question du vocalisme, juste pour que le panorama soit complet, sans évidemment en mettant juste des petites briques qui sont des plus petites boîtes plutôt, qui sont des grosses boîtes en réalité si on commence à les ouvrir. Mais évidemment, la question du vocalisme, elle est essentielle si on veut parler d'un linguistic turn dans la logique médiévale. On se rappelle que alors attendez, je crois que j'avais même une. Voilà. La triple rencontre. Ah, ben, j'avais même ça. Vous vous souvenez de ces témoignages d'une nouveauté introduite en logique. Là, il y a vraiment les témoignages d'une nouveauté de ces maîtres qui commencèrent à enseigner la logique invoquée et non à la manière de Boès et des anciens docteurs in re. L'un de ces modernes était un certain Jean qui eut plusieurs disciples, dont Rosselin, justement, Arnoux de Lan, Robert de Paris, qui montre que Rosselin, évidemment, n'était pas le premier ni le seul vocaliste. Ce témoignage est confirmé par Anselme, qui précisément s'opposa à ces hérétiques de la dialectique qui enseignaient que les universaux n'étaient que des émissions de voix et avaient introduit imprudemment ces considérations en théologie. On est dans les années 1080. À partir de l'étude des inédits, Yukio Iwakuma avait cherché à comprendre ce qu'était le vocalisme et qui étaient ces vocales. en montrant un certain nombre de textes, et en particulier en montrant l'opposition des auteurs sur l'intentio porphyrii, c'est-à-dire sur quoi traiter, de quoi traiter l'isagogé de Porphyre. Dans un deuxième temps, je rappelle aussi là des points, on pourra y revenir, on a proposé de distinguer entre le vocalisme proper, comme disent les anglophones, de ce qui se passait avant. Yukio Iwakuma parlait de proto-vocaliste et John avait commencé à parler de invoqué exégète. Alors, quel était le critère de partition entre les premiers et les deuxièmes ? Les deuxièmes, le vrai vocalisme commençait avec Abélard, avec le critère qui, selon moi, est discutable, que c'était que là, ce n'était qu'avec Abélard qu'on avait une théorie des universaux soutenue par une ontologie. On peut y revenir. John Marenbon lui-même a trouvé que c'était une caractérisation pas suffisante. Je lui ai demandé s'il avait fait une nouvelle rétractation, parce qu'on a beau être amis, je n'ai pas toujours les dernières rétractationnes. Là-dessus, il n'a pas eu de rétractation, donc je suis d'accord avec sa dernière critique, qui date déjà d'une dizaine d'années. C'est tard pour ne pas avoir fait de rétractation sur ce point. En tout cas, cette idée que tout commence avec Abélard, parce que là, enfin, on a de la métaphysique et de l'ontologie dans une théorie des universaux, ça ne suffit pas. J'aurais beaucoup d'arguments moi-même à y ajouter à cette question. Enfin, il est clair que quand on lit ces textes de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle, de dire que le choix de faire une lecture invoquée ou de réduire à cette lecture-là ne suffit pas. On voit en particulier, et j'ai beaucoup parlé maintenant de Guillaume de Champeau, que chez Guillaume de Champeau, qui a une lecture en réalité double, puisqu'il choisit de lire les textes in re, mais aussi secondairement invoqués, puisque les voces signifient les res, on a bien autre chose que cette terminologie extrêmement complexe, que lui reprocheront d'ailleurs ses élèves, de ce choix du type de lecture des catégories, ou d'ailleurs des catégories grammaticales. Donc je laisse ça, c'était juste pour placer aussi cette petite boîte dans le panorama. Donc en fait, l'hypothèse que je voudrais vous présenter maintenant, c'est une hypothèse qui est que le linguistic turn, il est peut-être plus qu'on ne l'a dit, je crois que d'ailleurs qu'on ne l'a pas dit, donc certainement plus, il est certainement marqué par une rencontre entre Boèce et Priscien. Si on y réfléchit, Boèce et Priscien sont tous les deux l'héritier, en tout cas partiellement, d'une certaine tradition néoplatonicienne. Il y a beaucoup de points de rencontre, et il n'était pas étonnant que quand on se mette à les lire dans les mêmes écoles, il y ait des rencontres. C'est ce qu'on a. Alors, point de méthode. On peut voir des continuations, on peut voir des similitudes doctrinales. Par exemple, le traitement de la paronymie. On a du traitement de la paronymie chez Anselme, et on l'a dans ses commentaires sur les catégories du début du XIIe. Simplement, et Christophe aussi l'a montré pour la théorie immanentiste des universaux, on peut avoir typologiquement la description d'une théorie des universaux qu'on peut voir chez Jean Scott, qu'on peut voir au Don de Cambrai, qu'on peut voir chez Anselme, et lui finissait sa liste avec Guillaume de Champeau. Ça, c'est une façon de traiter les problèmes et l'histoire de la logique, on peut le faire. Simplement, moi, ce que je mets un petit peu en cause dans cette façon de traiter, c'est qu'on n'a pas de preuve de continuité. Et ce qui est assez frappant dans le premier commentaire sur les agogés, le fameux P3 que Julie a bien étudié, c'est qu'on n'a pas de continuité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trace de ces problèmes théologiques, on a l'impression d'un nouveau départ. Et ça, je voudrais vraiment discuter avec vous cette question d'un nouveau départ dans ces commentaires, non seulement les commentaires sur la Logica Vetus, mais les commentaires sur Priscien, et insister donc sur le rôle de Guillaume de Champeau. On n'a pas mis à jour de continuité ou de dépendance significative avec ce qui précède pour les commentaires de logique et de grammaire. Il faudrait évidemment prendre le cas de Rosselin, puisqu'on sait qu'Abélard a enseigné avec Rosselin. Mais au niveau des textes, on n'a pas de continuité. C'est la même chose aussi. On a des points, on a des similitudes. Quand on prend le commentaire sur Priscien attribué à Jean Scott, qui a étudié Anneli Lutala, elle a même étudié des gloses du XIe siècle, qui sont en fait des extraits de ce commentaire attribué à Jean Scott. Mais en réalité, on n'a pas de lien significatif dans les manuscrits de Priscien. Franck Signato, en ce moment, est en train d'étudier les gloses, il ne désespère pas, etc. Il a trouvé des petites gloses ici ou là. Mais quand on regarde ce commentaire sur Priscien que nous venons d'étudier avec Anne Grandeux, dont nous venons d'étudier la tradition avec Anne Grandeux, mais il y a absolument sans commune mesure. C'est un énorme commentaire où il y a des interactions entre grammaire et logique, où il y a plein de maîtres qui discutent ensemble. C'est-à-dire on a une espèce de gros paquet là qui surgit à la fin du XIe siècle, on ne sait pas où, probablement à l'an, et on n'a vraiment rien de similaire. Donc je crois quand même qu'il y a un nouveau départ là. Bon, ça c'est une hypothèse que je vous soumets. Je laisse de côté complètement la théologie ici. Donc l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, en considérant cette production textuelle du début du XIIe siècle, et en particulier ceux que je dirais dans l'école de Guillaume de Champeau, c'est que le linguistic turn se produit. Alors ça c'était. Je vais me perdre dans les. Non, mais tant pis. Que le linguistic turn se produit en raison du croisement, d'une part, entre Priscien d'une part et la logique avitus, isagoguer les catégories et le périherménéas de l'autre côté. Deuxièmement, que Guillaume de Champeau, donc, en est un acteur majeur, lui que l'historiographie réduit souvent à être le rival malheureux d'Abélard, le grand perdant de la querelle rapportée dans l'Historia Calamitatum sur les universaux. Évidemment, je ne veux pas dire que l'ensemble de la production logique ou que toutes les questions qui y sont traitées se réduisent à ce linguistic turn, mais ce que je veux dire, c'est que ce moment initial va laisser des traces durables dans la logique médiévale pour une partie, la partie qui concerne précisément l'analyse du langage, qui faisait partie intégrante de la logique jusqu'à une certaine date. Donc Guillaume de Champeau est un maître influent, il a enseigné sur les trois arts du trivium, et on sait qu'Abélard a suivi ses cours, il le cite sans arrêt. Pourquoi l'influence de Guillaume de Champeau a été difficile à reconnaître? Pour une raison assez simple, c'est que pendant longtemps, on a cherché à lui attribuer des textes. Et moi, je crois que c'était, enfin, c'est pas moi qui crois, c'est le résultat en fait d'un groupe qui a eu une dizaine d'années, qui s'est réuni avec tous les spécialistes de cette époque, mais en particulier des historiens et des historiens des textes. C'est qu'on n'a peut-être pas de texte de Guillaume de Champeau, mais on a des complexes de textes, en particulier des complexes de textes sur les catégories, des complexes de textes sur la grammaire, et ça, il faut prendre en compte cette chose-là. Donc, il y a eu beaucoup de disputes en disant « mais ce texte n'est pas de Guillaume », sauf qu'on a des commentaires qui sont apparentés, évolutifs et stratifiés. Et ça, c'est vraiment un ensemble de textes qu'il faut prendre ensemble, et là, on reconnaît une évolution, et quand on regarde Abélard discuter, on retrouve les opinions dans ces textes, donc on comprend la discussion. Donc je crois qu'avec ces textes de logique et de grammaire, c'est-à-dire les textes autour de Guillaume de Champeau, commentaires... Alors, je ne suis pas du tout convaincue pour le commentaire P3 sur l'isagoguer. En tout cas, je dirais que, sans rentrer dans les questions d'attribution, ce que je voudrais souligner ici, et ça, on l'a montré dans nos livres qui viennent de sortir, c'est qu'il y a un moment donné où on s'intéresse à des questions dont on voit qu'ils viennent à la fois de Priscien et d'un texte de la logique avitus. On ne l'a pas du tout dans P3. Dans P3, il n'y a pas d'analyse linguistique. C'est du Boès, ça traite des universaux, ça suit Boès, il y a des nouveautés, Julie l'a montré, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les commentaires sur les catégories et les commentaires sur les glosulés. Et c'est même beaucoup plus intéressant parce que ce qu'on a pu voir, nous, c'est que quand on regarde en parallèle ces commentaires, ces séries de commentaires ordonnés, puisqu'on a des commentaires qu'on appelle la tradition des glosulés d'un côté, et par exemple les commentaires sur les catégories de l'autre, eh bien on peut vraiment les mettre, faire des chronologies relatives quand on suit un problème, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à voir l'évolution philosophique d'une discussion. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est obligé de partir d'une certaine façon des doctrines. Et quand on voit les... Mais enfin, ça se voit, c'est-à-dire qu'on a une solution, elle est critiquée, on a une nouvelle solution qui de nouveau est critiquée, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des chronologies relatives. Et ce qu'on a pu montrer, c'était certainement ce lien entre les catégories et Priscien, et en particulier le chapitre sur la quantité des catégories. Ce qui est un point très intéressant, parce que dans ce C8 complexe, dans ce complexe de catégories sur C8, Sayukyo Iwakuma l'avait montré, c'est là que tous les commentaires commencent à diverger. Et c'est exactement ces points-là sur lesquels on trouve des parallèles avec la grammaire. Donc là, il y a une interaction, évidemment, on a une interaction qui révèle des discussions lesquels se retrouvent dans les textes d'Abélard commentés, discutés, point de départ de ces analyses. Donc on peut se dire que là, étant donné qu'Abélard l'attribue à son maître Magister Noster, étant donné que nous, on a des témoignages contemporains d'une attribution à Wilhelm Huss, que tout ça, ça fait l'école de Guillaume de Champeaux. Quelle est la version du texte qu'il a faite, lui? Je dirais d'une certaine façon, peu importe, ça se passe dans son école. Voilà, donc ça, c'est un petit peu une autre façon de prendre ces nouveaux textes. Alors, je vais prendre juste deux exemples, parce que comme j'ai deux points à traiter et qu'il est tard, je ne veux pas traîner. Le premier point, évidemment, c'est le problème des universaux. Souvent, on dit que Abélard a donné une solution nominaliste au problème des universaux, au conceptualiste, et on parle de linguistic turn pour Abélard. Ce que je voudrais ajouter, et là aussi je ne fais que le dire, mais on pourra en rediscuter plus, c'est que, comme on le sait, et comme Alain l'avait montré, il y avait un texte de l'archéologie philosophique que j'aime bien, quand il montre qu'il y a un passage du questionnaire de Porphyre au problème des universaux au Moyen-Âge, que le problème d'un universo, il se constitue précisément sur les trois textes, l'Isagogé, le Péri-Herménéas, enfin les catégories et le Péri-Herménéas, avec une espèce d'action en retour. Vous avez le texte d'Alain ici, et je renvoie aussi à son étude, en particulier très claire, sur la quatrième question de Porphyre. Pourquoi Abélard introduit une quatrième question au commentaire de Porphyre? Pourquoi il introduit cette quatrième question qui porte sur la nomination et l'imposition des noms universels? Et c'est là que le contexte peut nous servir. Ce que je voudrais dire, je le dis de façon un peu abrupte, mais beaucoup ont travaillé sur cette question maintenant ici dans la salle, c'est que si Abélard fait une sémantique nominaliste, c'est-à-dire qu'il traite le problème des universaux à partir du nom, c'est simplement parce que c'est pas juste parce qu'il y avait un pauvre Guillaume qui avait comme ça sa petite théorie et qu'il a été obligé d'inventer autre chose. Non, c'est parce qu'on a vu une sémantique réaliste chez Guillaume de Champeaux. Autrement dit, son réalisme s'appuyait sur une sémantique du nom universel, du nom propre et du nom commun, qui était bien une sémantique réaliste et qui s'élaborait où ? Dans les commentaires sur Priscien, dans la définition du nom de Priscien. Donc, quand on regarde les choses comme ça, on s'aperçoit, pour reprendre encore la méthode archéologique de mon cher Alain, on a un complexe de questions et de réponses qui est nouveau et qui se construit à partir de Priscien et de ces trois textes, dont je rajouterai ma petite note à ce que tu avais dit, qui se construit comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une sémantique du nom réaliste. Et c'est par rapport à ça que Abélard introduit sa quatrième question, enfin l'une d'elles, puisque l'autre c'est sur l'intellection. Bon, je laisse complètement de côté. Il a besoin d'une théorie des intellections en plus que d'une théorie sémantique. Mais on voit bien que dans toute cette partie de l'Isagogé, il discute avec les grammairiens, il les cite, il distingue même le nom universel du nom commun. Enfin, tous ceux qui ont travaillé sur ces textes s'en souviennent. Et il se pose la question de l'imposition des noms universels. Et il se sert de quoi? Il se sert d'un couple, la distinction entre la signification et la nomination. Alors, dans les façons traditionnelles de présenter la question, on dit, et ça a été reconnu, le couple signification-nomination, la question de l'imposition, ça a été emprunté aux grammairiens. Mais ça ne suffit pas. Ça s'est constitué comme ça. C'est un couple qui s'est constitué, qui a servi à un moment donné à fonder une sémantique réaliste, et qu'Abélard a pris un certain nombre d'outils, à rajouter quelque chose de très important qui est cette théorie des intellections, je n'y reviens pas, donc là il y a vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout chez Guillaume, mais si on prend un bout de sa question, ou cette question de l'imposition et de la nomination des noms universels, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que c'est la même question, la même discussion, et j'ai montré le parallélisme sur la conveniencia, bon je ne reviens pas là, mais je crois que là il y a peut-être une façon un peu différente de prendre les questions. Et à chaque fois, la grammaire est un peu le parent pauvre. C'est parce que c'est de la grammaire, on dit, bon, ça peut être au mieux une source. Mais ce n'est pas une source, c'est un socle commun. Et ce socle, c'est Priscien Boès. Alors, je voulais juste vous lancer l'hypothèse comme ça. Je l'ai expliqué plus longuement ailleurs. Évidemment, chez Abélard, les références à Priscien sont explicites. Or, ce n'est pas rien. Parce que cette distinction entre la signification et la nomination, elle n'est pas seulement l'outil que Abélard, une espèce d'outil neutre qu'il aurait trouvé comme ça en lisant Priscien, en écoutant un cours sur Priscien, ce qu'on sait depuis toujours qu'il a écouté le cours sur Priscien de... On ne sait pas forcément que c'était de l'école de Guillaume de Champeaux, mais en gros, on le savait. Mais on a toujours l'impression qu'il a emprunté ses outils. Ce n'est pas qu'il a emprunté ses outils, c'est qu'il a travaillé avec les outils disponibles dans le CQR qui était disponible, que lui-même a contribué à déplacer. Or là, c'est important. Pourquoi ? Parce que cette distinction entre signification et nomination, c'est quand même le socle, la distinction entre signification et référence, qui est une des grandes innovations de la logique médiévale. Donc de dire toujours, c'était un peu déjà dans De Rijk, qu'on a des sources grammaticales et que puisque ça vient de la grammaire, c'est forcément réduit à des sources, mais le reste, ça s'élabore ailleurs. Et cette rupture avec Abélard, qui ferait de la métaphysique, enfin, toutes les ruptures avec Abélard sont questionnables, et encore une fois, je ne conteste pas son génie, loin de moi, c'est même pas du tout la question. La question, c'est de savoir comment ça se constitue. Le dernier point sur cette première partie de mon exposé, c'est que ce que qu'on voit pour cette opposition fondamentale entre signification et nomination, on le voit pour un grand nombre d'autres notions qui s'introduisent où dans la logique médiévale, enfin, qui sont poursuivies en partie par la grammaire, mais qui rentrent de façon durable dans la logique médiévale. Et là où justement Abélard a joué un rôle, c'est que très souvent, il dit, justement parce qu'il était, enfin, j'en parlais avec John hier, il a écrit la Dialectica sur une grande période, il était sans arrêt en discussion avec Guillaume. Et petit à petit, on le voit, quand on prend les solutions de la Logica par rapport aux solutions de la Dialectica, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il est toujours en train de dire, mais le dialecticien, il doit faire ça, pas le grammairien. Et nous, on l'a dans nos textes de grammaire, c'est-à-dire l'opposition entre le point de vue du grammairien et le point de vue du logicien. Et Abélard, il dit, non, ça, c'est mon domaine. Donc, il est dans la séparation de la logique par rapport à la grammaire, et on le comprend très bien quand on prend ce socle de commentaires de l'école de Guillaume sur Priscien et sur la grammaire, où il y a des interactions, même si on trouve d'ailleurs dans ces commentaires de grammaire la distinction entre le sens du grammairien, le sens du logicien, etc. Alors, quelles sont ces notions ? Et je ne ferai que les énumérer, mais vous allez voir que c'est quand même aussi important que les notions de signification et nomination. La théorie de l'opposition entre parties signifiantes et consignifiantes, qui donnera la théorie des cinq catégorèmes. Là, on voit très bien que ça se construit, pareil, ça se construit sur certains passages de Priscien et sur certains passages de Boès. Et c'est évidemment un maître qui enseignait les deux qui pouvait le faire. Et là, encore une fois, discussion chez Abélard, où il sauve une solution, il en prend une autre, etc. Deuxième point, enfin, c'est des points pour certains qui sont connus, évidemment, l'analyse du verbe substantif. L'analyse du verbe substantif comme copule, qui n'est pas quelque chose qu'on trouve tel quel chez Boès, on voit bien que le commentateur de Priscien va introduire dans la définition du verbe substantif de Priscien le périherménéas, et que le commentateur du périherménéas va introduire les considérations sur la signification du verbe qui viennent chez Priscien. On l'a sur le verbe substantif. On l'a sur les deux théories, là aussi c'est quand même une grande innovation de la logique médiévale, les deux théories de la prédication par identité et par inhérence. Ça s'introduit dans ces discussions de grammaire à un moment donné, en liaison avec le périherménéas, et on voit les liens. Il me semble que j'ai oublié quelque chose, mais c'est surtout ça, les cinq catégorèmes, l'analyse du verbe substantif, l'analyse de la prédication, et puis l'opposition entre signification et nomination. Et le dernier point, c'était une chose que j'ai étudiée récemment, c'est la théorie de l'universel comme collection, qu'on a cherché, qui est mentionnée dans le commentaire sur l'Isagogé d'Abélard, qu'on a cherché, qu'on n'a pas trouvé, qu'on a trouvé dans des textes postérieurs qui avaient à voir avec la méréologie. Si on avait pris en compte ce complexe de questions et de réponses qui constitue finalement la théorie de la collection, on l'aurait trouvé, ce que j'ai fait grâce à la grammaire, justement, c'est tout simplement le rapport entre la théorie du nombre dans les chapitres sur les catégories et la théorie du nom d'agrégat, des noms comme populus, dans la grammaire. Et là, on a des textes qui sont exactement parallèles dans les commentaires sur les catégories de l'école de Guillaume, dans les commentaires sur Priscien, sur le nombre en particulier, et on voit qu'il y a des interactions avec les mêmes solutions et des citations même littérales du commentaire sur les catégories de l'école de Guillaume et les commentaires sur Priscian de Grammaire. Donc là, je crois qu'il faut peut-être voir un petit peu les choses autrement et voir le rôle joué par ce socle nouveau à un moment donné qui s'est imposé dans les écoles de Paris avec l'analyse de, avec l'enseignement influent de Guillaume de Champeau, qu'on ne peut plus seulement réduire à l'état de source et surtout ne pas forcément mettre la barre forcément juste avant Abélard, sous prétexte que Abélard serait le premier à faire de la métaphysique ou de l'ontologie. Enfin, cette théorie du nombre, elle a de l'ontologie et elle est basée sur les théories des catégories. Donc je crois que là, il y a quelque chose peut-être à changer. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voudrais vous proposer. Donc, deuxième point. Deuxième point qui a à voir en partie, enfin pas en partie, mais c'est aussi peut-être une façon autre de prendre les choses. Il y aura des échos avec ce que a dit Constantino tout à l'heure. On a beaucoup discuté, et là le volume de Julie contient des études tout à fait remarquables, d'elle-même, de Jean-Marc Mandozio, d'Aurélien Robert, etc., sur Albert Legrand. Je voudrais reprendre cette discussion pour savoir si la grammaire est science sermocinaliste ou rationaliste et voir comment ça s'applique aussi à la, si la logique, je veux dire, et si ça s'applique aussi à la grammaire et à la grammaire universitaire. Et on va voir que des réponses, les réponses de la grammaire universitaire, et je vais un petit peu large, il faudrait faire comme tu l'as dit, on sait très bien qu'il y a des générations différentes, ils n'ont pas tous les mêmes solutions, mais en gros, il y a quand même une orientation de ce genre pour dire que la grammaire, elle est « eadem apud omnes ». Ce qui est original à cette époque, c'est que le choix du sujet de la grammaire dépend de considérations qui sont à la fois épistémologiques et de développement proprement théorique, à la fois linguistique, noétique et métaphysique. Alors, je ne reviens pas, ou je vais très rapidement sur les divisions des sciences produites à l'université. Elles sont bien étudiées dans les études que je viens de mentionner et celles de Constantino qu'il avait fait il y a longtemps dans les cahiers de Copenhague. On a, toutes ces études montrent bien ce débat autour de la nature de la logique comme scientia sermocinalis ou scientia rationaliste. On connaît l'importance du Liber de Scientiis d'Al-Farabi, traduit par Gérard de Crémone, des divisionnés philosophiers de Gundis Alinus, qui adapte en le déformant la classification des sciences de Farabi à partir d'un cadre latin préexistence. Un point important pour notre propos, c'est l'opposition entre Farabi et Avicenne, qui est souvent répétée, sur la manière de distinguer entre la logique et la science du langage. Pour Farabi, les objets de la logique sont les intelligibles en tant que les expressions les désignent et les expressions en tant qu'elles désignent les intelligibles, dans son Énumération des sciences, donc un texte connu des latins. Et il précise, et ça c'est important parce que c'est quelque chose qui sera toujours repris quand on contestera à la grammaire le fait d'être universel. Pour Farabi, les grammaires, les règles qui sont indépendantes des langues doivent relever de la logique, parce que la logique porte sur ce poids, sur le raisonnement général et les règles générales indépendantes des langues, alors que la science du langage porte sur les langues particulières. Tu avais les sciences du langage tout à l'heure, enfin ça je ne reviens pas, mais les sciences du langage, c'est parfois la première partie, celle qui porte de l'imposition des noms, ce n'est pas forcément la grammaire. Enfin, il y a une confusion dans les divisions des sciences. En tout cas, peu importe, c'est une considération générale qui est ensuite appliquée à la grammaire, même si au départ elle ne porte pas exactement sur la grammaire. Alors Avicenne critique cette conception. Le lien entre logique et langage est accidentel. Le langage est nécessaire simplement parce qu'on a besoin de mots pour apprendre à enseigner. Comme il le dit, je lis la traduction de Jean-Marc Mandozio, le logicien, du fait qu'il est logicien, n'a pas à s'occuper d'abord des mots premiers, sinon en ce qui concerne la parole et l'action. Car s'il était possible d'apprendre la logique par la pensée seule, de telle sorte qu'on n'ait rien d'autre à examiner que les pensées, alors elle seule suffirait. Mais pour cette raison, ce qu'a dit celui-là, donc Farabi, est sans valeur, à savoir que la logique a été instituée pour examiner les expressions en tant qu'elles désignent les pensées et que l'art du logicien consiste à parler des mots en tant qu'ils désignent les pensées. Donc, si elle le pouvait, la logique pourrait se passer des mots et s'intéresser seulement aux intelligibles. Évidemment, comme on le sait, Albert Le Gant reprend ce raisonnement d'Avicenne dans son commentaire sur Porphyre pour refuser absolument que la logique soit une scientia sermocinalis et qu'elle ait pour sujet le langage en tant qu'il renvoie aux choses signifiées. Le sermo est quelque chose qui est ad placitum et donc qui ne relève pas d'une analyse logique. La logique ne traite pas du langage pour lui-même, contrairement à la grammaire, la rhétorique et la poétique, mais de façon accidentelle, seulement en tant qu'il est le support des raisonnements qui correspondent par essence à des actes de l'intellect. La logique naturelle est donc indépendante des langues, puisque même des muets en sont dotés, et elle a pour objet l'argumentation rationnelle sur toutes ses formes, et Albert Le Grand reprend ce raisonnement d'Avicenne. Or, ça c'est des choses qui ont bien été mises en lumière, entre autres dans le volume de Julie, par plusieurs études, comme je le disais. Mais c'est ce qu'on n'avait pas vu, enfin, d'ailleurs je dois dire que moi je ne l'avais pas vu à ce point avant de lire les études sur Albert, c'est à quel point les arguments d'Avicenne repris par Albert sont exactement ceux qu'on trouve, et ça peut paraître plus déroutant pour la logique, c'est exactement ceux qui sont repris par toute la tradition de la grammaire spéculative à propos de la grammaire, justement, on va le voir. La source, de quoi vient l'idée que la grammaire puisse être eadem apud omnes? Le premier point, évidemment, c'est que eadem apud omnes, c'est l'expression qu'utilise Boès pour caractériser les voces dans le fameux triangle sémantique. Les voces ne sont pas eadem apud omnes, elles ne sont pas les mêmes chez tous, de façon différente des res et des passionnés animés. Mais à l'époque, l'eadem apud omnes, et c'est lié exactement avec le texte de Boès, mais à partir d'autres textes, c'est des considérations épistémologiques sur la nature des sciences. Vous avez plusieurs textes, et les textes de grammaire commencent toujours comme ça. Est-ce que la grammaire est une science? Et on dit toujours, la science ne traite que de ceux qui sont semper et eadem apud omnes. Il n'y a pas de science de ce qui est casuel et fortuit, etc. On reconnaît les analytiques derrière. Et donc, évidemment, on a immédiatement des critiques et des résistances, à savoir au moins deux. La première, c'est la diversité des langues. Puisqu'on a plusieurs idiomata, il semble y avoir autant de grammaire que de langues. C'est ce que vous avez dans quelques textes que je vous ai mis ici, mais ils disent tous la même chose. On trouve d'ailleurs les mêmes discussions dans les commentaires sur le Péri-Arménéas comme dans les questions de Pierre d'Auvergne. La deuxième résistance tient au fait que les langues sont variables et dépendent des volontés humaines. Elles sont ad placitum. Et là, de façon intéressante, Robert Kilwardby répond à partir du commentaire de Strad sur l'éthique, en fait, puisqu'en fait, la même chose, pour prouver que l'éthique est une science, on a un problème, étant donné que l'éthique aussi traite des actions humaines et volontaires. Donc, les difficultés sont abordées dans tous les traités universitaires avant même la période modiste, donc la période des années 1270 avec Boès de Dacy et les premiers modistes danois. Et ici encore, comme pour Albert Le Grand, et je crois qu'on en parlait il y a peu, et je crois que ça devrait encore être plus marqué, plus étudié, le rôle pionnier de Robert Kilwardby est absolument considérable. Et là, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à la... comme je viens à la fin, je fais des clins d'œil à tous les exposés qui ont été faits avant, mais ce maître anglais à Paris, Robert Kilwardby, a été quand même extraordinairement influent pour beaucoup. Et en tout cas, dans l'apparition de ces grammaires modistes, enfin, très fondée sur la notion de mode de signifier, cet auteur est extrêmement important, qui enseigna donc la grammaire et la logique dans les années 40, disons, et auteur d'un influent De Hortus Scientiarum, composé vers 1250 à Oxford. En fait, ces questions épistémologiques, j'en cite juste une petite liste, mais il y en a d'autres, tous les traités universitaires commencent en se posant ces questions. Et là, justement, par rapport à ce qu'on discutait avec Julie, il y a un certain nombre de traits qui sont communs à ces commentaires. Il faudrait montrer que ce n'est pas forcément des traits d'un enseignement à l'université. Mais comme on trouve des considérations, un petit peu comme ce que Constantino nous a montré sur la nécessité de la philosophie pour la félicité, etc., on a des traits philosophiques sur la félicité, sur le bonheur philosophique, la perfection philosophique, etc., peut-être que ça se retrouve aussi dans les ordres, dans les manuels enseignés dans les ordres mendiants, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tous ces traités ont le même type de proémia et que c'est des questions importantes qui cherchent à appliquer les critères de scientificité à la grammaire, comme à la logique, comme à toutes les sciences. On retrouve d'ailleurs dans la dernière question quelque chose d'intéressant sur les rapports entre logique et grammaire et philosophie. La dernière question, est-ce que celui qui inventa la grammaire était un grammairien ? Et on a cette idée que j'aime bien du grammaticus mixtus, qui était partim grammaticus, partim metaphysicus. Il devait être métaphysicien pour connaître les propriétés des choses et grammaticus pour connaître les propriétés des noms. On a plusieurs fois ce type de solution. Alors, les réponses varient dans leurs détails, mais finalement, elles visent toutes à établir une distinction entre ce qui, dans le langage, est universel et ce qui est variable selon les langues, donc distinction entre propriété essentielle, propriété accidentelle, entre essai et bene esse. Jean Dassy dit « Grammatica est et adem apud omnes essentialiter, est amen diversa apud omnes accidentaliter ». Donc, les modes de... Quel est le socle ? Ce n'est pas juste une affirmation d'ordre épistémologique. On le montre par des considérations à la fois linguistiques, psychologiques, enfin noétiques et métaphysiques. Évidemment, les modes de signifier sont les principes de la grammaire. Les modes de signifier, c'est les propriétés des unités linguistiques. Si on les considère en relation à leur support vocal, ils sont variables selon les langues, mais si on les considère en eux-mêmes, per se, comme propriété des parties du discours, principe de construction, indépendamment de ce support vocal, alors ils sont les mêmes chez tous. D'où l'idée que la vox n'est pas considérée par le grammairien per se, mais seulement per accidens. Et ça, c'est en fait la réponse d'Avicenne transmise par Albert, cette idée que le langage n'est pas considéré, le sermo ou la vox, il y a des discussions là-dessus, n'est pas considéré per se, mais per accidens. Donc on a aussi là plusieurs textes. Le point, on va arriver à cette idée, cette discussion de l'idée que la grammaire est une science sermocinalis. Donc, comme je serais assez d'accord avec ce que disait Aurélien Robert dans le volume de Julie, c'est qu'on a souvent dit que pour Albert Legrand, qu'il hésitait, parfois il dit qu'il est rationaliste, il dit que ça ne peut pas être sermocinaliste à d'autres textes, etc. Je crois qu'au bout du compte, il y a quand même une certaine unité de pensée derrière les formulations. En réalité, je pense que c'est exactement la même chose pour les modistes. Alessio avait fait un tableau pour montrer ceux qui pensaient que la grammaire était sermocinaliste, d'autres rationalistes, etc. En réalité, derrière ces étiquettes, si on regarde le détail, on a une conception d'ensemble qui est quand même qu'on peut ramener à ces traits, communs. Moyennant certaines qualifications et restrictions importantes, la grammaire peut ne pas être considérée à la fois comme une scientia realis, comme une scientia sermocinalis et comme une scientia rationalis. La grammaire n'est pas une scientia realis, comme les sciences naturelles qui considèrent les choses pour elles-mêmes, mais elle l'est un petit peu parce qu'elle considère les propriétés des choses, ou modi essendi, qui sont les fondements des modes de signifier. Elle peut être rationaliste à plusieurs titres, mais surtout comme la logique et la rhétorique, parce qu'elle tresse des entibus factibus a ratione nostra, ce qui est la définition de Thomas. On la voit apparaître à un moment donné, notamment chez Gentilis. Et évidemment, la discussion pour savoir si elle est sermocinalis, elle est sermocinalis d'une certaine façon, puisqu'elle traite quand même des propriétés des unités linguistiques, mais elle ne traite pas du sermo ou de la vox per se, ou même, comme dira Raoul Le Breton, elle ne traite pas de la vox, mais elle traite du sermo. Donc on a des détails, mais en gros, cette conception des modes de signifier fondée sur les modes d'être et les modes intelligés, je vais juste vous en dire deux mots, justifie qu'elle puisse être d'une certaine façon à la fois réaliste, rationaliste et sermocinaliste, même si les auteurs ont l'air de s'accrocher à leurs étiquettes. Je crois qu'il y a quand même une conception d'ensemble qui d'ailleurs va être critiquée comme telle à un moment donné. Donc, les arguments pour faire des modes de signifier les principes de la grammaire sont très parallèles aux arguments tirés d'Avicenne pour faire des intentions secondes les principes de la logique. Et là, je n'ai pas le temps non plus de m'y étendre, mais en fait, le fameux triangle voces res passiones, il est redoublé d'un deuxième triangle, modi significandi, modi essendi, modi intelligendi, qui sont en fait des concepts de second ordre, on les appelle un petit peu comme ça. C'est la partie de la consignification dans un mot, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir un signifié, je ne sais pas, vous prenez le mot homo, il renvoie à un homme, etc. Il y a un concept d'homme, il y a la chose homme, et puis vous avez toutes les propriétés qui tournent autour de ce mot et qui le font, qui le rendent constructible, c'est-à-dire que c'est ces propriétés dont on a besoin pour expliquer la correction des énoncés. C'est pas parce que homo signifie un homme qu'on peut dire homo curit. On peut dire homo curit parce que homo a telle propriété, telle autre, etc., qui va s'entendre avec les propriétés de curit en face. Et ça serait vrai quel que soit le signifié lexical du mot. Donc en fait, l'idée des modes de signifier, c'est vraiment de poser l'indépendance entre le signifié lexical et ce qu'on peut appeler le signifié grammatical, et de montrer que la grammaire en tant que grammaire scientifique, celle qui n'est pas seulement descriptive mais qui est régulariste, qui doit donner les règles, elle n'a besoin que ces modes de signifier, elle n'a même pas besoin de savoir, de connaître le signifié lexical, et donc elle se situe au niveau de ces entités métalinguistiques, c'est ces entités de second niveau, ce qui est quelque chose de très intéressant. Donc je ne vais pas vous embêter avec cette théorie des modes de signifier. En gros, c'est ça. C'est vraiment l'idée que la grammaire ne va s'occuper que de la correction et de la construction, des causes de la construction et de la correction. Et ces causes, ce sont des propriétés générales. Propriétés générales, par exemple, qu'un nom aura aussi bien que n'importe quel nom, quel que soit son signifié lexical, et d'autre part, propriétés générales qui sont justement universelles. C'est-à-dire quand on considère ce qui fait qu'un nom est un nom nominatif, etc., quel que soit son signifié lexical, quelle que soit la langue dans laquelle les modes de signifier s'incarnent, eh bien, les modes de signifier seront les principes de la grammaire, d'où cette idée d'universalité. Deuxième point, les justifications ontologiques et psychologiques. Donc cette idée que les modes de signifier ont des corrélats dans les modes d'être par l'intermédiaire des modi intelligendi, là aussi c'est plus compliqué, mais en gros c'est ça l'idée. Et l'idée que je crois que vous avez un texte de Boise de Dassy qui est bien connu. Cette idée qui est, selon Luca Bianchi, c'est même une idée qu'il a montré dans son article sur Finimantum, que c'était vraiment... Ça aussi, c'est une chose qui a été montrée par Luca récemment et que je n'avais pas vue telle qu'elle, mais j'avais peut-être raté. L'idée que ce fondement... L'idée que les principes d'une science doivent se fonder sur des entités pour être sûr que ce ne soit pas des fictions, des figmenta, il l'a fait dans son article sur Figmentum, sur Boise de Dassy, quelque chose que je n'avais pas vu. C'est-à-dire une espèce de socle ici avéroïste, il n'y en a peut-être pas beaucoup de l'avéroïsme chez les modistes, mais en tout cas il y a ça, une espèce de socle absolument essentiel qu'on ait un fondement réel aux entités qui constituent les principes des sciences. Et ce n'est pas rien ça, parce que vous allez voir, c'est ce qui va être critiqué par les nominalistes ultérieurement. Donc ils se fondent sur les modes d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez un mot, il va signifier une chose et ses propriétés. Donc, par exemple, une chose en tant qu'elle est permanente, il la signifiera comme nom, ou une chose comme elle est en mouvement, et il la signifiera comme verbe. Et là, on retrouve à nouveau Avicenne, c'est-à-dire cette idée d'indifférence de l'essence. Toute chose peut être signifiée de n'importe quel mode. Et donc, ça, c'est un point intéressant parce que ça rend la grammaire indépendante des choses, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'indépendance des modes de signifier par rapport, on a une dépendance d'un mode de signifier par rapport à un mode d'être, mais pas d'un mode de signifier par rapport à son signifié, comme on l'a pas du mode d'être par rapport à la chose. Et donc on arrive à l'idée du caractère ad placitum du langage, qui était un des arguments qu'avait pris d'ailleurs Avicenne pour critiquer l'idée que la logique puisse être science du langage. En réalité, il y a beaucoup de débats sur ces questions, mais on discute bien l'idée, quand on se pose la question de l'impositeur du langage, comment il a imposé les noms. on a à la fois cette exigence d'un fondement inné des catégories, pour que la grammaire ne soit pas fictionnelle, il faut que ces principes, les modes de signifier, aient un fondement inné. Mais comme on retombe sur la question, ça voudrait dire, si le langage se résume à ça, que le langage n'est pas ad placitum, qui semble aller contre ce que dit Aristote et Boès et tout le monde. Et donc là, on a des réponses différentes, mais la réponse la plus intéressante, c'est l'idée qu'il faut qu'un mode de signifier soit fondé sur un mode d'être. Par exemple, la propriété d'une chose d'être permanente, ça existe et ça appartient à certaines choses qui sont permanentes. Mais il n'est pas nécessaire que le nom renvoie à la chose avec cette propriété. Par exemple, le nom « nihil », évidemment, on va dire, et ça c'est des vieilles discussions, un nom comme nihil, rien, n'a pas l'air de renvoyer au monde de la subsistance, puisque la chose qu'il signifie n'existait pas. Mais l'idée, c'est que nihil peut être substantif parce qu'il renvoie à un modus essendi, qui est celui des choses existantes, et il l'associe à autre chose, qui est une chose qui n'existe que dans l'âme. Donc, vous voyez, il y a à la fois une dépendance radicale et une indépendance dans le fait qui garantit, d'une certaine façon, le caractère ad placitum du langage par l'intermédiaire, cette médiation des modi et intelligendi. Donc, quand on dit qu'on a un redoublement, c'est pour ça que mon schéma, il est juste comme ça pour vous montrer quelque chose qui puisse se comprendre, mais il n'est pas juste, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de relations dans ce triangle qu'il y en a, et on n'a pas du tout l'idée que d'une indépendance de la signification ou d'une dépendance médiate ou immédiate. Bon, je laisse de côté ça, je voulais juste vous donner le panorama général pour arriver à mon tout dernier point, qui est la critique, parce que avec tout ce qu'on a entendu, en particulier hier dans l'exposé de Jacob ou de David Simonetta, cette question de la place du langage, elle m'a apparu de plus en plus importante au fur et à mesure que j'entendais les exposés sur la période postérieure. Les attaques contre la théorie des modes de signifier maintenant. John Pinborg l'a étudié et je renvoie surtout à des études qui sont beaucoup moins connues de notre ami Ono Knipkin sur toutes ces grammaires mentalistes, nominalistes, etc. du XIVe siècle. Ou qui font vraiment la transition avec les grammaires du XVe siècle, de Jean Versort, etc. Ces articles-là ne sont pas connus. Ce qu'on connaît, c'est les études, les travaux de Pinborg et évidemment les Destructiones Modorum Significandi de Pierre Dailly. Qu'est-ce qui se passe au XIVe siècle ? Au XIVe siècle, vous avez... Alors, ça vient, encore une fois, ce n'est pas que des critiques nominalistes. Ça vient des milieux réalistes, puisqu'il y a des auteurs qui sont proches de Jean Gendin, et ça vient des milieux nominalistes. On a l'impression qu'il y a une sorte d'accord à un moment donné pour dire, pas du tout, le langage, il est ad placitum, il signifie par convention, il n'y a pas besoin de postuler des entités réelles derrière les catégories du langage. Les catégories, les mots signifient comme ça parce que elles ont été inventées par les hommes librement, selon la volonté humaine. On n'a pas besoin de poser des entités réelles comme les mots dits et sendis. Il n'y a aucun fondement. Je crois que je vous avais mis une citation. Orifaber, et sic negatur modus significandi, quia vox est solo usu et exercitio significat. Donc le mot ne signifie que par son usage, par son exercice, et il n'y a rien qui lui soit surajouté pour expliquer qu'il signifie. Et un auteur dit « modi significandi sunt reprobati a modernis ». Mais qu'est-ce qui se passe par ce mouvement ? On a évidemment par là toute la revendication d'une science du langage à être universelle qui est rejetée. Et c'est ce que disent les auteurs, Orifaber par exemple, le grammairien n'a qu'à donner les règles de la grammatica positiva, c'est-à-dire les règles de l'usage tels qu'ils existent de manière différenciée dans les langues différentes. Et le domaine de l'universel revient au logicien. Vous avez plusieurs textes comme ça, de milieux philosophiques un peu différents. Et on reprend toujours, c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure, la citation d'Al-Farabi, la logique s'occupe de l'universalité, la grammaire s'occupe des mots dans chaque, enfin de la grammaire positive telle qu'elle existe dans les différentes langues. On peut parler de mode de signifier, mais c'est simplement du point de vue métaphorique. Si on veut appeler la propriété qui fait un nom, un nominatif, etc., des modes de signifier, comme dit Occam, c'est un usage métaphorique, mais on le vide de tout l'apparat théorique, épistémologique, noétique et ontologique qui lui avait donné son sens chez les modistes. Alors, une chose intéressante, justement, quand on regarde les grammaires étudiées par Knipkens, on ne perd pas totalement tout l'apparat explicatif des modistes, parce que chez ces nominalistes, c'est des logiciens, ça ne les intéresse pas tellement. Mais dans certaines grammaires, en fait, on passe tout, c'est pour ça que ça me frappait, j'ai posé la question à Jacob Schmutzière, c'est-à-dire que tout l'apparat, toute cette explication par les causes, par les modes de signifier, etc., certains passent tout dans le langage mental, c'est-à-dire que le régime, c'est une catégorie mentale, les catégories grammaticales, c'est des catégories mentales, le langage oral est subordonné au langage mental, mais ils gardent quand même le modèle explicatif avec les règles. Ça, c'est la version la plus optimiste. Tout n'est pas perdu, disons, du modisme. Pour d'autres, il y a simplement une contestation, c'est-à-dire que la grammaire, elle doit être purement descriptive, et elle doit s'occuper que des langues particulières. Donc, je ne sais pas justement, c'est ça qui m'intéressait dans les débats d'hier. La seule chose, et je finis vraiment là-dessus, c'est que là, on a vraiment un mouvement vers l'universalité qui est important. Et il y a d'autres auteurs, il y a Roger Bacon, etc., que j'aurais pu prendre. Mais enfin, cette idée d'une universalité de la grammaire, chez les modistes, elle est intéressante parce que ce n'est pas simplement une revendication épistémologique de la grammaire comme science, mais ça se fonde sur une théorie qui explique la correction du discours, qui explique la complétude. Enfin, il y a toute une théorie derrière. Il y a une psychologie et il y a une métaphysique. Et ça, où est-ce que ça part, en fait? Après, je ne sais pas. Ça part dans le langage mental, ça part ailleurs. En tout cas, ça sort de la grammaire. Alors, il y a encore des grammaires spéculatives qui sont produites. Mais cette dimension, je ne sais pas, Constantino dirait certainement sémiotique du langage, cette idée de cette théorie de l'imposition, de la double imposition, de la sémantique, du rapport entre les noms aux choses. À partir du moment où ça part de la logique et que ce n'est plus dans la grammaire, ben il faudra attendre je ne sais pas quoi, la grammaire générale, Locke, j'en sais rien. En tout cas, ça sort à un moment donné du champ et du coup, ça questionne la place de l'analyse du langage dans la logique et en général dans le champ épistémologique des disciplines. Et voilà, je voulais prendre ces deux points qui n'ont pas tout à fait de rapport entre eux, mais voilà, je m'arrête là.